RFI vous présente Afrique Press.
Hassan Diop.
Bienvenue à tous, Afrique Press, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Georges Dougueli de Jeune Afrique, Valérie Thorin du magazine Africasie et puis Pierre Benoît, désormais journaliste indépendant. Et c'est autour de trois sujets cette semaine. Au Niger, le pouvoir tente de calmer le jeu après avoir usé de la manière forte avec les étudiants en colère. Au Gabon, le grand meeting de l'opposant Jean Ping et la poursuite du dialogue national initié par le président Ali Bongo. Et enfin le Nigeria avec ses lycéennes de Chibok enlevées par Boko Haram qui en sont à leur troisième année de captivité. D'abord cette nouvelle crise estudiantine donc au Niger ternie par la mort d'un étudiant après l'intervention des forces de l'ordre sur le campus universitaire de la capitale Niamey. La mort de cet étudiant Mala Bagalé, Georges, a conduit également le président Issoufou à changer de ministre de l'enseignement supérieur. Mohamed Ben Omar a échangé son portefeuille avec celui de son collègue du travail. Alors d'abord cette réaction autoritaire, le recours à la manière forte, puis finalement se résoudre, je dirais, à écouter ces étudiants en colère.
Je dirais que malheureusement c'est courant en Afrique dans ce genre de situation. Je corrige pas qu'en Afrique, mais dans certains régimes, il y a cette tentation d'user de la manière forte et je dirais la force excessive de la police pour réprimer des revendications somme toute sociales et tout à fait compréhensibles dans le cas qui nous intéresse. Le Niger, c'est un pays, vous le savez, qui a une natalité extraordinaire. Il y a d'énormes problèmes sociaux. Les étudiants, il est normal qu'ils demandent de meilleures conditions de travail. Et quand ils descendent dans la rue, le gouvernement a souvent cette réponse sécuritaire qui n'est pas une réponse du tout parce que...
Elle est disproportionnée.
Voilà, elle est disproportionnée et en plus elle ne règle rien.
Pierre. Oui, je pense que Georges a raison de taper tout de suite sur le cœur du problème. C'est un pays où la natalité, les femmes font plus de 7 enfants par couple. Et donc, c'est une bombe à retardement formidable. Toute la question de la structure de l'éducation, c'est une gestion politique centrale pour un pays comme le Niger. Et donc, tout ce qui touche à la scolarité, à la question des bourses, et il faut savoir qu'en ce moment, au Niger, il y a un mouvement des professeurs du primaire, qui est un mouvement de grève perlée. Donc la question de l'éducation est stratégique.
Alors Valérie, il n'y a pas que ce traitement de choc infligé à ces étudiants, donc un mort, ce n'est pas rien. Et puis il y a eu aussi des personnalités de la société civile qui ont été inquiétées, notamment un activiste qui dirigeait un mouvement de jeunes, arrêté pendant plusieurs semaines et détenu. Il y a un journaliste, etc. Amnesty International s'en est inquiété. Alors est-ce que le président Issoufou, après cette braqué, c'est le mot qu'il faut peut-être utiliser ici, après s'être braqué avec ses opposants, aujourd'hui paraît presque autiste, je dirais, à l'égard de la société civile. Comment expliquer ce qu'on pourrait qualifier de dérive autoritaire, somme toute?
Je ne sais pas si on peut parler de dérive autoritaire. J'ai un peu l'impression que le président a perdu le contact avec la réalité. C'est un peu le problème des présidents un peu âgés de son temps. Quand il était jeune, ça se passait pas comme ça. C'était tu obéis et puis c'est tout. Et puis on partait faire ses études à l'étranger, on venait en France, etc. Pour certains. Mais disons que aujourd'hui, effectivement, avec cette natalité, avec énormément de gens qui finalement arrivent à faire des études supérieures, j'ai peur que Issoufou soit, même si c'est pas un vieillard, je pense qu'il est un peu déconnecté d'avec ça, et que pour lui, bon, on verse les bourses, oui, non, bon, c'est pas trop son problème, alors que c'est un problème.
Voilà, le problème, Georges, c'est qu'effectivement, la lutte contre Boko Haram pèse sur les finances de ce pays. Le Niger est l'un des pays les plus pauvres au monde. Les programmes sociaux sont mis de côté parce qu'effectivement, l'argent va prioritairement à la sécurité, à recruter des militaires, à recruter des membres des forces de l'ordre. Alors, comment sortir de cette quadrature du cercle? Est-ce que finalement, le Niger peut régler ses problèmes tant que le Niger ne s'attaquera pas au problème de cette démographie galopante? En moyenne, 7 gosses par femme.
On ne va pas revenir sur l'uranium gate, parce que les ressources
de l'uranium
ne sont pas...
Qui ont baissé d'ailleurs aussi.
Fortement baissé. baisser. Effectivement, le problème de la natalité, c'est gravissime. Parce qu'il n'y a pas que le Niger, à des proportions diverses, la plupart des pays... À l'échelle du continent, ont un grand problème de natalité. Il est temps que les gens prennent conscience de ce que, dans 20 ans, 30, 50 ans, on n'aura plus les moyens de nourrir cette population.
Un Nigérien sur deux a moins de 15 ans.
Voilà,
et c'est lié à l'éducation. Parce que les programmes de l'UNICEF ont parfaitement montré que lorsqu'on maintient les filles à l'école jusqu'à 16 ans, eh bien, il n'y a pas d'enfants avant 16 ans, ou très peu, etc., etc. Donc, on gagne un bébé, ou on gagne deux bébés. C'est-à-dire qu'on descend de 7 à 6.
L'État n'a pas les moyens de leur offrir ce qu'ils sont en train de demander.
Mmh. Et aucun homme politique n'a le courage de s'attaquer au problème de la natalité, Valérie, au Niger.
Mais oui, c'est pas facile, parce que s'attaquer au problème de la natalité, qu'est-ce que c'est ? C'est le préservatif ? Je parle même pas de la pilule ni rien, c'est le préservatif ou...
Et c'est l'école. Puis, maintenir les filles à l'école.
Tout ça, ça coûte de l'argent.
Et puis, il faut une volonté politique. Et je crois que c'est quand même un phénomène culturel très ancré. Il faut avoir des enfants.
Mais voilà, il faut avoir des enfants et ne pas avoir d'enfants, eh ben, c'est pas bien. Et puis, mettre des préservatifs, c'est pas du tout dans les mœurs. Il y a des blocages. Donc, je pense que c'est tout un ensemble. Il faut révolutionner les mentalités. Mais alors ça
va prendre du temps et beaucoup de courage pour les responsables politiques du Niger. RFI TV 5 Monde Afrique Presse, et l'on passe à l'actualité gabonaise et au premier meeting de Jinping depuis la victoire controversée d'Ali Bongo à la présidentielle d'août dernier. On écoute un extrait de l'allocution de l'opposant Jinping, suivi de propos de Faustin Boukoubi, qui est le secrétaire général du PDG, le parti au pouvoir au Gabon.
Les Gabonais ne vous ont pas accordé la majorité de suffrage. Vous le savez bien. La communauté internationale le sait également.
Nous considérons qu'il s'agit là d'une opération de com qui n'a pour seul but que d'entretenir l'espoir. Toutes les instances internationales ont reconnu ou à tout le moins ont pris acte de l'élection de M. Ali Bongo Ondimba comme président de la République gabonaise.
Voilà, Faustin Boukoubi, donc après Jinping, Jinping qui tente donc son comeback et qui, effectivement, lors de ce meeting, en parlant de lui-même à la troisième personne, a déclaré qu'il était là pour aller à la présidence. Et effectivement, ce que dit Boukoubi n'est pas faux. C'est-à-dire, il se réfère toujours, je dirais, aux anomalies relevées par les observateurs de l'Union européenne pendant la présidentielle. Que Jinping le veuille ou pas, on a le sentiment quand même que l'Union européenne, l'Union africaine, la France... Tout le monde admet la réélection d'Ali Bongo.
Je pense que lui-même n'y croit plus.
Tout le monde a pris acte.
Oui, lui-même, quand on l'entend parler, il n'y croit plus du tout. Je pense qu'il est un peu l'otage de sa base radicalisée, qui est toujours dans la ligne de la destitution, du remplacement par tous les moyens d'Ali Bongo. Donc Jinping, aujourd'hui, il n'a pas prévu ce scénario. Je pense qu'il était sûr de l'emporter et de prendre le pouvoir, parce que c'est deux choses différentes.
D'être élu.
Il dit qu'il a été élu, on l'appelle le président élu, mais il n'a pas pris le pouvoir. Donc aujourd'hui, on est dans une impasse au Gabon, parce que le gouvernement fait son dialogue dans son coin avec ses alliés et ses amis. Ping, lui, a fait le sien en décembre. C'était pas un dialogue, c'était, on va dire, un monologue avec ses amis, ses copains.
Avec ses amis, quand même, la coalition de la Nouvelle République.
Voilà, en attendant, le pays n'avance pas. Tout est bloqué, les gens... sont démobilisés, notamment les sympathisants de Jinping. On est dans une espèce d'impasse où les gens parlent chacun avec ses copains et il n'y a pas de pont entre les deux.
Mais cette impasse n'est pas simplement du fait de Jinping. Jinping, à tort ou à raison, pense qu'on l'a dépossédé de sa victoire et que la réélection de M. Ali Bongo est sujet à caution, en tout cas, selon un certain nombre d'observateurs extérieurs. Et voilà, mais au finish, effectivement, la plus haute cour de justice gabonaise a donné la victoire à Ali Bongo.
Jinping, il est coincé. Il est coincé parce que si il dit « Ok, d'accord, c'est Ali Bongo qui est président », il se tire une balle dans le pied, il est fini. Donc, qu'est-ce qui lui reste ? S'il dit pas OK, il dit non. Donc, il dit non. Mais il n'a pas mille solutions. S'il entre en dialogue, il ne peut pas devenir le premier ministre d'Ali Bongo. C'est absurde. Il n'a même pas de copains, de gens dans sa mouvance qui pourraient y aller. Il est coincé politiquement. Je ne vois pas comment est-ce qu'il peut s'en sortir. C'est le problème de la personnalisation excessive. Il a concentré sur lui-même un certain nombre de choses. Or, lui, il n'y a personne. Donc, ben voilà, on est dans une impasse. Très honnêtement, je ne sais pas comment il peut arriver en sortir.
Une impasse, moi je dirais qu'on est devant une espèce de... Il y a deux scènes de théâtre. D'un côté, il y a Jean Ping qui répète comme une ritournelle qu'il est le président élu, etc., etc., et que donc Ali Bongo doit laisser la place. Mais manifestement, comme on vient de le dire très justement, il n'y a pas de plan B. Il n'a pas réfléchi à autre chose que d'être président. Donc, il n'a aucun jeu tactique. Et contrairement à ce que vient de dire Georges, je ne suis pas certain qu'il soit prisonnier de son entourage ou d'une base radicalisée. Je pense qu'il y a un problème Jean Ping, tout simplement, un problème de perception intellectuelle, de perception politique et de jeu tactique. Ça, c'est le premier théâtre. Et donc, il répète. Et je pense qu'il va répéter « je suis le président élu » encore pendant longtemps. Sauf que, bon, peut-être tout le temps du mandat actuel d'Ali Bongo. Peu importe. Et l'autre théâtre, c'est le dialogue national. Alors, c'est vrai que effectivement, il y a des partis d'opposition, il y a des personnalités qui sont là dans la société civile qui sont dans ce dialogue, mais même parmi les opposants qui ont accepté, tout le monde parle d'enfarinade. Parce que tout le monde sait que la Constitution ne sera pas modifiée, qu'il ne s'agit pas véritablement de l'esprit
de bouger
les fondamentaux. Ce n'est pas l'esprit d'une conférence nationale souveraine, pas du tout. On veut juste donner un peu d'air pour que le pays, là, je rejoins Georges, reparte. Parce que même les entreprises ne marchent pas très bien, il n'y a pas de perspective de contrat, de marché, etc.
Alors comment qualifier ce forum, Georges? Voilà, on s'attend à ce que les lignes bougent. Apparemment, on ne s'achemine pas vers ça. Ce forum est censé réconcilier les Gabonais, mais les partisans de Jean Ping, ils pèsent ce qu'ils pèsent. Mais enfin, ils pèsent tout de même. Ces partisans ont boycotté ce forum. Alors qu'est-ce qu'on peut réellement attendre comme résultat? Ou est-ce que c'est juste une séance de catharsis en attendant effectivement que la tempête passe, que Jean Ping se résout à être perdant?
Je pense que le camp du président, le camp du pouvoir, veut prendre l'opinion nationale et internationale à témoin. Nous avons eu une élection, certes, mouvementée, contestée, mais nous sommes fils du même pays. Nous organisons une assise pour nous parler, pour essayer de voir où on peut avancer. Et je vais relativiser ce que Pierre vient de dire, parce que le sommaire de ce dialogue prévoit quand même énormément de choses. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut...
Reste à savoir si on va les obtenir. Est-ce que, par exemple, il va y avoir une limitation du nombre de mandats présidentiels? Est-ce qu'il va y avoir des élections présidentielles à deux tours, etc.?
Ça va se discuter. Mmh. C'est prévu. Donc, la politique de la chaise vide, parce que c'est un peu le cas, bon, faire son dialogue en décembre avec les opposants, c'est de la comédie, parce qu'à la fin, loin du pouvoir, ça ne peut pas marcher. Donc, le vrai dialogue, celui pour lequel il fallait se rassembler, c'était celui-là. Ils ne sont pas venus.
Donc, une fois de plus, Jean Ping a tort, alors, d'avoir boycotté ce dialogue, Valérie?
Non, moi, je crois pas. Moi, je pense pas que le vrai dialogue, c'est celui-ci. Dialogue, ça veut dire deux. Puisqu'ils sont pas deux, c'est pas vrai. Un dialogue, c'est un interlocuteur. Il n'y a pas d'interlocuteur. On se réjouit.
On se paye de mots.
On se paye de mots, exactement. Mais ça sert à strictement rien. Tout le monde est d'accord. Donc, on va pouvoir promettre. Ça va engager personne.
Rideau de fumée, Pierre, ce dialogue.
Oui, je pense que ça ne peut pas déboucher parce qu'il y a d'autres. Même si formellement, ils ont dit, comme ça a été rappelé, qu'on peut discuter de tout dans la pratique, ben, il manque quelqu'un. Et comme l'autre, il ne veut pas entendre qu'il faut qu'il bouge, soit venir au dialogue et pas simplement utiliser les tribunes pour répéter comme une mécanique, quoi. Je suis le président élu. Eh bien, la situation est bloquée. Moi, clairement, je suis très pessimiste sur la situation politique globale du pays. Je pense que le mandat de Ali Bongo actuel ira à son terme à peu près.
Voilà, aujourd'hui, c'est la période du fils, hein, Ali Bongo Ondimba, et non Domar. Voilà, on en vient à notre dernier sujet, le Nigeria, où les lycéennes enlevées le 14 avril 2014, Valérie par Boko Haram à Chibok, dans le nord-est du pays, endurent donc leur troisième année de captivité. Hein. Sur les 270 jeunes filles, il y en a encore environ 195 qui sont toujours détenus donc par les djihadistes. Et le 13 avril, c'est-à-dire jeudi dernier, Mohamedou Bouhari, le président nigérian, a admis qu'il y avait des négociations via des contacts, a-t-il dit, pour faire libérer ces otages. On sait que le comité international de la Croix-Rouge est à la manœuvre. Mais est-ce que justement ces négociations ne sont pas quelque part un aveu d'impuissance de la part du pouvoir nigérian vis-à-vis des terroristes?
Écoutez, moi je trouve tout ça très étrange. 195 jeunes filles, ça mange, ça boit et ça reste pas tranquille au bout de 3 ans. Hein, c'est pas une personne au milieu de nulle part avec une dizaine de gars pour les garder. presque 200 personnes
non,
pour
mais
les
elles
garder.
Sont dispersées, hein.
Alors,
dispersées du temps dans cette fameuse forêt de la Sambisa.
Oui, mais la forêt de la Sambisa, c'est pas une forêt équatoriale. C'est la savane arborée. Donc, si vraiment il y a autant de moyens militaires, il y a des drones, il y a des appareils qui peuvent
repérer.
Alors
pourquoi on les a pas localisés selon
vous ? On les a pas localisés parce qu'il y a beaucoup de poudre aux yeux dans l'affaire, je pense. Je pense que ces jeunes filles, non seulement elles ont été dispersées, mais elles ont été mariées, mais elles ont été endoctrinées de telle sorte que finalement, c'est une chose un peu artificielle, c'est une vision occidentale de ce phénomène qui s'est passé. Et je crois que ce qui est important, c'est pas tellement de se dire ça fait 3 ans de captivité, comme si elles étaient regroupées dans un. C'est surtout de se dire qu'il y a un vrai problème. C'est cette société qui a permis que des djihadistes s'emparent de jeunes femmes qui étaient au lycée. Pourquoi ? Qu'est-ce qui, dans leur tête, leur a fait confondre salafisme ou même wahhabisme avec kidnapping ? Parce qu'il n'y a pas un imam qui prêche le kidnapping, quand même.
Alors, il faut dire
donc,
que Boko Haram, Valérie...
Il y a des problèmes sociaux, politiques... Ouais. Et de médiatisation de l'affaire.
Voilà, le rapt de lycéennes, c'est tout de même s'en prendre au type d'enseignement occidental. Rappelons que Boko Haram, justement, à la base, c'était rejeter tout ce qui était une forme d'éducation occidentale et qu'on enlève les lycéennes ensuite pour les éloigner ou de cette emprise, voilà.
Ça aussi.
Donc ce n'est pas surprenant, mais en arriver aujourd'hui, finalement, avouer qu'on négocie avec les terroristes parce qu'on n'a pas d'autre issue, c'est tout de même surprenant, non, de la part de Bouhari ou...
Moi, je parlerais de la faiblesse structurelle de l'État fédéral nigérian. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une armée qui est sur le terrain, mais elle est aveugle parce que l'armée nigériane s'est coupée de la population du nord-est de ce pays à cause de la violence excessive avec laquelle elle intervient. Et on sait très bien que sans renseignement sur le terrain, une armée est aveugle. Et c'est le cas de cette armée-là. Lorsque la population ne peut pas, ne renseigne pas les militaires. Alors, lorsque l'armée n'a pas ce genre de renseignements, il est impossible de localiser ces filles-là. Et quand on dit on négocie, mais avec qui est-ce qu'on négocie ? Moi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout crédible.
Je reviens sur ce que disait Valérie. Yeah. Je pense qu'effectivement, d'ailleurs, il faut noter que la vidéo qui a permis d'identifier par les familles certains otages, c'est 15 filles. Hein. Donc, où sont les autres, hein ? Il y en a plus de 180 qui sont encore à retrouver. Alors, elles sont dispersées. Comme dit Georges, effectivement, il n'y a pas de renseignement de terrain parce que il y a la terreur, hein, et la terreur de parler, de donner des informations dans les zones qui ne sont pas forcément...
Où les populations ne veulent pas collaborer.
Voilà, avec l'armée qui a commis beaucoup d'exactions, qui maintient une terreur de représailles possibles. Hein. Boko Haram, c'est quand même pas des enfants de cœur. Et puis aussi, certaines, probablement, ont lâché l'affaire quelque part. Elles sont extra-sexuelles, elles ont été mariées de force, le temps a passé, etc. Elles ont même eu des enfants. C'est terrible ce qu'on est en train de dire dans un studio parisien. Mais la vérité, c'est quand même ça. Et donc, voilà. Et donc, maintenant... La négociation, ça fait choc. Mais en même temps, si on avait les informations, on ferait quoi ? On ira attaquer alors qu'il peut y avoir des représailles directes immédiatement sur ces gamines qui maintenant sont peut-être mères de famille. Et donc voilà, c'est très compliqué pour le régime. Il faut noter que l'offensive militaire qui a été lancée a permis de disperser tous ces groupes. Il y a une perte de terrain, de surface de terrain contrôlée par Boko Haram. Il y a une dispersion également dans les pays de la région, le lac Tchad, on le disait tout à l'heure à propos du Niger. Finalement, cette affaire de Chibok montre la réalité des limites de la lutte contre Boko Haram.
Juste un mot, Valérie, vous avez évoqué effectivement aussi la complicité ou la collaboration entre les populations du Nord-Est et Boko Haram.
Mais oui, parce que Boko Haram, c'est pas une entité. Boko Haram, c'est une multitude de c'est un réseau,
des
c'est
cellules,
un groupe.
Ouais.
Il y a des gens dans les villages qui vont aller prendre les armes, faire un coup, et puis revenir, et puis continuer à cultiver. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de renseignements aussi. Parce que ça veut dire trahir son frère, son cousin, son oncle. Donc, c'est pas si simple.
Et que ça se passe effectivement dans l'une des régions les plus déshéritées du Nigeria, le nord-est, avec une importante population là aussi, mais laissée pour compte.
Exactement. Les déséquilibres de la redistribution de la richesse, les problèmes climatiques, l'absence d'infrastructures, l'école qui est quasiment.
Parce que le Nigeria c'est le pétrole,
voilà.
Comme on le sait.
Et c'est la fin de cette émission. Merci Valérie Thorin, Georges Dougueli, Pierre Benoît, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Vous pouvez retrouver cette édition sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Merci de votre fidélité à Afrique Presse et à la semaine prochaine.